Le spiritisme et la magie. Le spiritisme pose en dogme l'amélioration fatale de notre espèce. La terre, un jour, deviendra le ciel, et c'est pourquoi cette doctrine charmait l'instituteur. Sans être catholique, elle se réclame de saint Augustin et de saint Louis. Allan Kardec publie même des fragments dictés par eux et qui sont au niveau des opinions contemporaines. Elle est pratique, bienfaisante et nous révèle, comme le télescope, les mondes supérieurs. Les esprits, après la mort et dans l'extase, y sont transportés. Mais quelquefois, ils descendent sur notre globe, où ils font craquer les meubles, se mêlent à nos divertissements, goûtent les beautés de la nature et les plaisirs des arts. Cependant, plusieurs d'entre nous possède une trompe aromale, c'est-à-dire derrière le crâne, un long tuyau qui monte depuis les cheveux jusqu'aux planètes et nous permet de converser avec les esprits de Saturne. Les choses intangibles n'en sont pas moins réelles, et de la Terre aux astres, des astres à la Terre, c'est un va-et-vient, une transmission, un échange continu. Alors le cœur de Pécuchet se gonfla d'aspirations désordonnées, et quand la nuit était venue, Bouvard le surprenait à sa fenêtre, contemplant ces espaces lumineux qui sont peuplés d'esprits. Swedenborg y a fait de grands voyages, car en moins d'un an, il a exploré Vénus, Mars, Saturne et 23 fois Jupiter. De plus, il a vu à Londres Jésus-Christ. Il a vu saint Paul, il a vu saint Jean, il a vu Moïse, et en 1736, il a même vu le jugement dernier. Aussi nous donne-t-il des descriptions du ciel. On y trouve des fleurs, des palais, des marchés, et des églises absolument comme chez nous. Les anges, hommes autrefois, couchent leurs pensées sur des feuillets, devisent des choses du ménage, ou bien de matière spirituelle, et les emplois ecclésiastiques appartiennent à ceux qui, dans leur vie terrestre, ont cultivé l'Écriture sainte. Quant à l'enfer, oh, il est plein d'une odeur nauséabonde, avec des cahutes, des tas d'immondices, des personnes mal habillées. Et Pécuchet s'abîmait l'intellect pour comprendre ce qu'il y a de beau dans ces révélations. Elles parurent à Bouvard le délire d'un imbécile. Tout cela dépasse les bornes de la nature, qui les connaît cependant. Et ils se livrèrent aux réflexions suivantes. Des bateleurs peuvent illusionner une foule. Un homme ayant des passions violentes en remuera d'autres. Mais comment la seule volonté agirait-elle sur de la matière inerte? Un bavarois, dit-on, mûrit les raisins. Monsieur Gervais a ranimé un héliotrope. Un plus fort à Toulouse écarte les nuages. Faut-il admettre une substance intermédiaire entre le monde et nous? L'ode, un nouvel impondérable, une sorte d'électricité, n'est pas autre chose, peut-être. Ces émissions expliquent la lueur que les magnétisés croient voir, les feux errants des cimetières, la forme des fantômes. Ces images ne seraient donc pas une illusion? Et les dons extraordinaires des possédés pareil à ceux des somnambules, aurait une cause physique? Quelle qu'en soit l'origine, il y a une essence, un agent secret et universel. Si nous pouvions le tenir, on n'aurait pas besoin de la force de la durée. Ce qui demande des siècles se développerait en une minute, tout miracle serait praticable et l'univers à notre disposition. La magie provenait de cette convoitise éternelle de l'esprit humain. On a sans doute exagéré sa valeur, mais elle n'est pas un mensonge. Des orientaux qui la connaissent exécutent des prodiges. Tous les voyageurs le déclarent. Et au palais royal, M. Dupotet trouble avec son doigt l'aiguille aimantée. Comment devenir magicien? Cette idée leur parut folle d'abord, mais elle revint, les tourmenta, et ils y cédèrent tout en affectant d'en rire. Un régime préparatoire est indispensable. Afin de mieux s'exalter, il vivait la nuit, jeûnait, et voulant faire de Germaine un médium plus délicat, rationnèrent sa nourriture. se dédommageait sur la boisson, et but tant d'eau-de-vie qu'elle acheva de s'alcooliser. Leur promenade dans le corridor la réveillait. Elle confondait le bruit de leurs pas avec ses bourdonnements d'oreilles et les voix imaginaires qu'elle entendait sortir des murs. Un jour qu'elle avait mis le matin un carrelet dans la cave, elle eut peur en le voyant tout couvert de feu, se trouva désormais plus mal et finit par croire qu'il lui avait jeté un sort. Espérant gagner des visions, ils se comprimèrent la nuque réciproquement. Ils se firent des sachets de belladone. Enfin, ils adoptèrent la boîte magique, une petite boîte d'où s'élève un champignon hérissé de clous et que l'on garde sur le cœur par le moyen d'un ruban attaché à la poitrine. Tout rata, mais ils pouvaient empouiller le cercle de Dupotet. Pécuchet, avec du charbon, barbouilla sur le sol une rondelle noire afin d'y enclore les esprits animaux qui devaient aider les esprits ambiants. Et heureux de dominer, Bouvard, il lui dit d'un air pontifical, « Je te défie de le franchir. » Bouvard considéra cette place ronde. Bientôt son cœur battit, ses yeux se troublaient. « Ah, finissons !» Et il sauta par-dessus pour fuir un malaise inexprimable. Pécuchet, dont l'exaltation allait croissant, voulut faire apparaître un mort. Sous le directoire, un homme rue de l'Échiquier montrait les victimes de la terreur. Les exemples de revenants sont innombrables. Que ce soit une apparence, qu'importe, il s'agit de la produire. Plus le défunt nous touche de près, mieux il accourt à notre appel. Mais il n'avait aucune relique de sa famille, ni bague, ni miniature, pas un cheveu. Tandis que Bouvard était dans les conditions à évoquer son père. Et, comme il témoignait de la répugnance, Pécuchet lui demanda « Que crains-tu ?»« Oh, rien du tout, fais ce que tu voudras. » Ils soudoyèrent Chamberlain, qui leur fournit en cachette une vieille tête de mort. Un couturier leur tailla deux houppelandes de noir avec un capuchon comme à la robe de moine. La voiture de Falaise leur apporta un long rouleau dans une enveloppe. Puis ils se mirent à l'œuvre, l'un curieux de l'exécuter, l'autre ayant peur d'y croire. Le muséum était tendu comme un catafalque. Trois flambeaux brûlaient au bord de la table poussée contre le mur sous le portrait du père Bouvard que dominait la tête de mort. Ils avaient même fourré une chandelle dans l'intérieur du crâne et des rayons se projetaient par les deux orbites. Au milieu, sur une chaufferette, de l'encens fumait. Bouvard se tenait derrière, et Pécuchet, lui tournant le dos, jetait dans l'âtre des poignées de soufre. Avant d'appeler un mort, il faut le consentement des démons. Or, ce jour-là, étant un vendredi, jour qui appartient à Béchette, on devait s'occuper de Béchette premièrement. Bouvard, ayant salué de droite et de gauche, fléchit le menton et levé les bras, commença. « Par Éthaniel, Amazin, Ischiros !» Il avait oublié le reste. Pécuchet, bien vite, souffla les mots notés sur un carton. « Ischiros, Athanatos, Adonai, Sadaï, Eloi, Messias, la Kyrielle était longue. « Je te conjure, je t'obsècre, je t'ordonne, ô Béchette !» Puis, baissant la voix, « Où es-tu, Béchette ? Béchette ? Béchette ? Béchette !» Bouvard s'affaissa dans le fauteuil, et il était bien aisé de ne pas voir Béchette. Un instinct lui reprochant sa tentative comme un sacrilège. Où était l'âme de son père ? Pouvait-elle l'entendre ? Si tout à coup elle allait venir ? Les rideaux se remuaient avec lenteur sous le vent qui entrait par un carreau fêlé, et les cierges balançaient des ombres sur le crâne de mort et sur la figure peinte. Une couleur terreuse les brunissait également. De la moisissure dévorait les pommettes, les yeux n'avaient plus de lumière, mais une flamme brillait au-dessus, dans les trous de la tête vide. Elle semblait quelquefois prendre la place de l'autre, poser sur le collet de la redingote, avoir ses favoris, Et la toile, à demi déclouée, oscillait, palpitait. Peu à peu, ils sentirent comme l'effleurement d'une haleine, l'approche d'un être impalpable. Des gouttes de sueur mouillaient le front de Pécuchet. Et voilà que Bouvard se mit à claquer des dents. Une crampe lui serrait l'épigastre. Le plancher, comme une onde, fuyait sous ses talons. Le soufre qui brûlait dans la cheminée se rabattit à grosses volutes. Des chauves-souris en même temps tournoyaient. Un cri s'éleva. Qui était-ce ? Et ils avaient sous leurs capuchons des figures tellement décomposées que leur effroi en redoublait. N'osant faire un geste, ni même parler, quand, derrière la porte, ils entendirent des gémissements comme ceux d'une âme en peine. Enfin, ils se hasardèrent. C'était leur vieille bonne, qui les espionnant par une fente de la cloison avait cru voir le diable. Et à genoux, dans le corridor, elle multipliait les signes de croix. Tout raisonnement fut inutile. Elle les quitta le soir même, ne voulant plus servir des gens pareils.